Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous, ça y est, c'est parti. Bah oui, c'est lundi, reprenez en douceur ou alors sur les chapeaux de roue. Mais quoi qu'il arrive, on est là pour vous accompagner. On est ensemble jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin sur RMC. L'émotion immense et la colère et les questions. Qui est responsable? Qui aura le courage de prendre ses responsabilités surtout? Personne ne partira en vacances tant que les 70 000 plaintes impliquant des mineurs ne sont pas intégralement revues. Voilà le coup de poing sur la table du ministre de la Justice après la mort de la petite Liana, Gérald Darmanin, qui réunit ce matin les procureurs généraux. Et la question d'ailleurs de sa propre responsabilité à Gérald Darmanin, elle se pose aussi. Une partie de la gauche demande sa démission. 9 procédures au total visent Jérôme Barella, le principal suspect de la mort de Liana. Les magistrats, eux, disent ne pas vouloir être les boucs émissaires de ce fiasco. Le représentant des procureurs de France a choisi RMC. Il sera en direct dans ce studio à 7h40. Et vous, ça vous fait réagir? Est-ce que les responsables doivent être punis? Est-ce que vous imaginez qu'il y aura vraiment des sanctions? Et puis, vous l'avez entendu il y a 10 minutes sur RMC, l'actrice, réalisatrice Andrea Bescon, elle-même victime, elle lance un appel à manifester ce soir devant les palais de justice partout tout en France. Est-ce que vous irez? Est-ce que vous avez prévu d'y aller? Vous venez me le dire au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. La politique, 7h50, Charles Consigny, voix de droite, reviendra sur le premier meeting de Jean-Luc Mélenchon hier à Saint-Denis. Pour lui, cette gauche-là, c'est une gauche contre-productive. Et à 8h30 dans le face-à-face, mon invité, ce sera le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, patron d'LFI, Manuel Bompard. Il est 6h59. Dans un instant, le journal de 7h, mais d'abord la météo. Géraldine, bonjour Géraldine. C'est le retour de la pluie.
Un temps qui va être bien perturbé aujourd'hui avec la pluie qui arrive par la Bretagne ce matin, qui va toucher les pays de la Loire jusqu'aux côtes de la Manche dans la journée. On va aussi avoir des orages des Pyrénées jusqu'au Massif Central et au Grand Est, des orages parfois assez forts, notamment autour du Massif Central avec de la grêle, avec de grosses rafales de vent. Ailleurs, ce sera souvent nuageux, sauf des Alpes à la Méditerranée où là, ce sera ensoleillé. Température très contrastée entre l'Est et l'Ouest. 16 degrés à Brest cet après-midi, mais 31 à Grenoble, 30 à Lyon, 28 à Marseille. Il fera 22 à Paris, à Bordeaux, 20 à Lille. Et en revanche, il fera très chaud le week-end prochain.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Excellent réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les sirènes d'alerte résonnent à nouveau ce matin au Moyen-Orient qui menacent de s'embraser après la reprise des bombardements entre Israël et l'Iran. Colère hier à Florence dans le Gers où plus de 6000 personnes se sont rassemblées. Marche blanche en hommage à Liana. L'affaire révèle les failles de la justice. L'ensemble des procureurs généraux sont convoqués ce matin par Gérald Darmanin. Et que vont devenir les 25 millions d'abonnés à SFR après le rachat de l'opérateur par ses concurrents?
Regain de tension ce matin au Moyen-Orient.
Avec des échanges de tirs depuis la nuit dernière, Téhéran et Tel Aviv ont rompu un très fragile cessez-le-feu en vigueur depuis deux mois maintenant, avec des explosions, Romain Houg, entendues très tôt ce matin en Israël.
Oui, au moins 8 fortes explosions ont été entendues au-dessus de Jérusalem alors que les sirènes d'alerte et les systèmes de défense antiaérienne israéliens ont été activés quelques instants plus tôt. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer. C'est la deuxième salve de missiles tirée depuis l'Iran vers Israël en quelques heures, alors même que les Iraniens n'avaient pas visé le pays depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis il y a tout juste deux mois. L'Iran dit riposter à des bombardements israéliens sur le Liban, mais ce matin, la trêve semble encore un peu plus fragilisée. Israël ayant également mené des frappes dans l'ouest et le centre de l'Iran, dont Téhéran, la capitale, contre l'avis même de Donald Trump. Le président américain s'est entretenu hier soir avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour l'exhorter en vain donc à ne pas répliquer contre l'Iran.
Et dans ce contexte, notez que c'est aujourd'hui qu'ouvre le guichet d'aide au carburant à destination des artisans du BTP impactés par la guerre au Moyen-Orient. 20 centimes par litre de gazole non routier facturé en mai dans un plafond limité à 4000 euros par entreprise de moins de 50 salariés. Plus jamais ça. Voilà ce qui était inscrit sur la banderole portée hier à Florence par les parents de Liana, jeune collégienne de 11 ans dont le corps a été retrouvé jeudi dernier dans un silo agricole. sur fond de polémique autour des procédures engagées contre le principal suspect. 6000 personnes ont marché hier, rassemblées dans cette commune du Gers, marche blanche en hommage à la jeune adolescente, entre colère et émotion. Reportage au cœur du cortège, Victor Girard.
Sa pancarte serrée contre elle dans le cortège.
Paix et justice, je suis Liana.
Alicia, 12 ans, tenait à participer à cet hommage.
C'était une copine à moi au collège, discutait dans la cour.
Pourquoi c'était important pour toi de venir ?
Pour pas qu'on l'oublie et qu'on lui dise au revoir.
Moi, je suis venu, un soutien aux parents, Christophe, hein, je suis le papa d'Alicia. Même à leur place, il y a même pas de mots en fait pour décrire ce aurait pu arriver de nos enfants.
Le cortège, vêtu de blanc, avance en silence. Il passe devant le collège où fleurs et bougies s'accumulent. Puis la tante de Liana prend la parole à l'arrivée.
Et au nom de toute notre famille, merci infiniment pour elle.
L'hommage prend fin et au milieu de la foule d'anonymes, Jessica peine à contenir ses larmes.
Le fait de voir que autant de personnes sont réunies pour une petite fille, c'est compliqué de contenir sa tristesse, sa peine, sa haine.
Colère largement partagée, Isabelle et Didier espèrent que cette marche servira d'électrochoc.
Et que tout le monde va se remuer et que ça se reproduira plus.
On donne les moyens d'avoir des gens qui sont là pour protéger les enfants à l'école et tout ça.
Des revendications que beaucoup iront porter dès ce soir lors d'un rassemblement à 19h devant le tribunal d'Auch.
Et des rassemblements comme celui-là, il y en aura une centaine dans d'autres villes en France pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice. 9 procédures, je vous le disais, pour viol ou agression sexuelle sur mineur engagée contre le principal suspect de cette affaire, sans que ce dernier ne soit inquiété. Des failles pointées du doigt par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Il dénonce des consignes qui n'ont pas été suivies. Le garde des Sceaux va demander des comptes aux procureurs généraux convoqués à 8h30 ce matin. Leur demander de revoir l'ensemble des 70 000 procédures en cours pour violence sur enfants, et l'un de ses procureurs justement a accepté de répondre aux questions ce matin de RMC. Il témoigne de manière anonyme au micro de Constance Bostoen. Sa voix a été modifiée.
Ce procureur ne cache pas son inquiétude après les propos tenus par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin.
J'ai suffisamment d'expérience pour savoir que louper ça arrive. Mais je sais parfaitement que ça peut arriver à n'importe quel moment. Qu'un garde des Sceaux s'excuse à l'avance pour nos dysfonctionnements à nous, moi ça me choque. On sait qu'on va être les boucs émissaires de toute façon et que personne ne nous protégera. C'est vraiment une crucification publique. C'est quelque chose qui nous angoisse.
Il regrette aussi une surcharge de travail due au nombre trop important de circulaires émises par le gouvernement. L'Union syndicale des magistrats en décompte 42 depuis le début de l'année 2025.
J'ai 30 ans d'expérience, fait 15 ans que je suis procureur de la République, je n'ai jamais connu une situation pareille. Absolument tout est une priorité et objectivement rien ne fonctionne en réalité. Et puis le problème, c'est que là, on est les otages d'un enjeu politique.
Dans l'affaire Liana, les premières conclusions d'une mission d'inspection devraient être rendues sous 15 jours, mais il assure que pour certains de ses collègues, il est déjà trop tard.
Beaucoup veulent quitter le parquet. Ils le feront. Hein. Là, ça a cassé quelque chose.
Et ne manquez pas, à 7h40, donc dans l'heure qui vient sur RMC, Frédéric Chevalier, procureur de la République de Chartres, président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Il a choisi RMC, il répondra à mes questions avant de se rendre au ministère de la Justice. Il sera donc là à 7h40. Il est 7h05 sur RMC.
À retenir également ce matin le bilan de ce crash d'hélicoptère de la gendarmerie dans le Loiret qui a fait un mort et deux blessés en urgence absolue. Tous ce sont des militaires. 20 milliards d'euros, c'est le montant du rachat de SFR par ses concurrents Orange, Free et Bouygues Télécom annoncé hier. Fruit de longues négociations, cet accord cadre doit encore passer entre les mains de l'autorité de la concurrence. Mais on s'interroge ce matin, Victor Jourdain, sur le sort des 25 millions de clients abonnés de la marque au carré rouge.
Eh bien, quand l'opération sera finalisée, pas avant un an, les abonnés transférés garderont leur numéro de téléphone et pourront rompre leur contrat si la nouvelle offre ne leur convient pas. Mais avec un retour à 3 opérateurs plutôt que 4 et donc moins de concurrence, les Français doivent s'attendre à voir leur facture de téléphone augmenter, prévient le spécialiste des télécoms, Vincent Roger Machard.
Aujourd'hui, on est en Europe, un des pays où on paye nos abonnements télécom le moins cher, avec une qualité de service qui est reconnue. Probablement, oui, on va s'aligner un peu plus sur la moyenne européenne dans les années qui viennent. On peut sans doute s'attendre à 10% en plus.
Autre inquiétude, les salariés de SFR ont sur le papier la garantie de garder leur emploi pendant un an et demi, mais aucun engagement pour la suite, et les syndicats craignent des suppressions de postes par milliers.
Une information trafic dans les transports en commun de la région Île-de-France sur les lignes A et C, trafic interrompu. Ligne A et C du RER ce matin, une partie des deux lignes est interrompue après un accident de personne. On est à une semaine maintenant du premier match des Bleus à la Coupe du Monde face au Sénégal. Dernière répétition ce soir, ce sera à Lille et ce sera à 21h10 à suivre sur RMC face à l'Irlande du Nord. Notez que la Norvège dans le groupe de l'équipe de France a fait match nul hein, partout face au Maroc hier soir. Et puis un pas dans l'histoire pour toujours. Les pionnières, les premières joueuses du club de handball de Metz, vainqueur de la Ligue des champions féminines hier soir à Budapest face aux Hongroises de Győr 31-29. Kevin Morand.
Oui, et les Messines ont célébré pendant près d'une heure avec le virage jaune garni de leurs 700 supporters. Une joie à la hauteur de leur exploit, la demi-centre, Léna Granvaux.
C'est la première Ligue des Champions pour un club français, c'est complètement dingue. C'est fait aujourd'hui et on peut être fiers.
Dès le coup de sifflet final, les larmes ont coulé en abondance chez la capitaine Messine, Chloé Valentini.
Je sais même pas pourquoi je chiale, parce que je réalise pas.
C'est incroyable, le match, tout ce week-end, cette année.
Metz avait échoué 4 fois en demi-finale ces dernières années, alors battre Győr, le double tenant du titre, en finale et en dominant largement la seconde période, la pivot Sarah Bouktit n'osait pas en rêver.
Je me suis fait des milliards de scénarios, j'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais excitée et stressée. Il y a pas un moment où je me suis dit on mènera plus 6 contre le géant Győr. Je suis pas surprise au final, c'est juste le fruit de tout le travail qu'on a accompli.
L'histoire est belle aussi pour Graza Hadi, la demi-centre revenue dans le club de ses débuts pour 3 mois après avoir déjà tout gagné avec l'équipe de France.
C'est la médaille qui me manquait, de la gagner en fait avec mon club de cœur, c'est incroyable.
Le club lorrain avait déjà tout sport confondu, l'un des palmarès les plus fournis de l'Hexagone, désormais sublimé par une Coupe d'Europe.
Et un mot de Roland Garros avec le premier grand chelem pour Alexander Zverev, vainqueur en 5-7 de l'Italien Flavio Cobolli après plus de 4 heures de jeu.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 et vous êtes bien sur RMC avec cette question aussi à la une. Il y a un peu plus de 20 milliards d'euros qui a été donc signé après des mois de négociations. Orange, Bouygues et Free ont trouvé un accord pour racheter l'opérateur SFR. Bonjour Stéphane Dubreuil.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste des télécoms. Quelles conséquences pour les clients SFR, 25 millions de clients en France, pour les clients SFR mais aussi pour les autres d'ailleurs, parce qu'à terme les prix augmenteront tous. C'est votre parti pris, vous nous expliquez comment dans un instant et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez la moindre question. Vous nous appelez au 32 16 7h09.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Après le rachat de SFR, que vont devenir les 25 millions de clients de l'opérateur téléphonique et comment ça va se passer? Bonjour Stéphane Dubreuil, merci d'entrer dans ce studio. Vous êtes économiste, vous êtes spécialiste des télécoms. Hier donc, Orange, Bouygues Télécom et Free, les trois ensemble, se sont mis d'accord pour racheter SFR qui était en vente depuis des mois, un accord à plus de 20 milliards d'euros. C'est jamais arrivé en France qu'un opérateur soit ainsi démantelé et coupé en trois.
Alors c'est jamais arrivé en France et quasiment dans le monde, puisque dans le secteur des télécoms, à ma connaissance, on n'a jamais explosé un opérateur en trois parties, ce qui est extrêmement complexe d'un point de vue à la fois des clients, mais également de l'infrastructure en fait du réseau.
Très très complexe, on va parler des clients, on va parler des forfaits, on va parler de l'emploi. Un mot d'abord sur les infrastructures, parce que en effet c'est des câbles, c'est des réseaux, c'est des antennes. Comment ils vont s'organiser, comment ils vont se découper le gâteau?
Alors a priori ils ont défini des plaques, donc par exemple les villes denses, les zones denses et les zones non denses. Et en fonction des opérateurs, de leur intérêt, chacun a dit, moi je veux récupérer cette partie-là par rapport à celle-ci. Donc en fait, on éclate le réseau en fonction des zones géographiques et en fonction aussi de la répartition de l'opérateur qui achète et de son intérêt.
Si on est aujourd'hui là, Stéphane Dubreuil, ceux qui nous écoutent, ils sont chez SFR. Ce matin, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'à la place de SFR marqué dans le coin en haut du téléphone, comment ça se passe concrètement? Est-ce que ça change la moindre chose quand on allume le téléphone ce matin?
Non, il faut rassurer les gens. Il ne va rien se passer d'ici 12 à 18 mois. Pourquoi? Parce que ce deal-là rentre dans une négociation avec les autorités de concurrence. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être géré à Paris ou si ça va être géré à Bruxelles. En fonction des opérateurs, ça sera différent. Aujourd'hui, il y a une période, on va dire, d'analyse, et a priori, il ne se passera rien jusqu'à fin 2027, début 2028. Donc, il faut rassurer vos auditeurs, a priori, ça ne bougera pas trop. La question se posera après, par la suite, à la fois pour les clients, à la fois pour l'emploi.
Donc ça, c'est sûr, concrètement, le téléphone, il continue à recevoir...
Il n'y a pas de changement de logo.
Il n'y a aucun changement, il n'y a même pas de changement de logo. Est-ce qu'il y a un changement de prix?
Et le prix, logiquement, ne bougera pas, puisqu'on est en pleine négociation. Les opérateurs ont aucun intérêt de rentrer dans une guerre des prix. Donc j'ai plutôt envie de dire qu'on va rentrer dans une période de gel. Il va strictement rien se passer. Néanmoins, il faut prendre en compte les inquiétudes des clients, et c'est normal. Beaucoup de clients vont appeler leur opérateur en disant « qu'est-ce qui va se passer demain pour moi ? Est-ce que mon os, je vais la garder
ou
pas ?»
Ceux qui n'écoutent pas RMC, vous voulez dire. Et puis, sinon, les autres auront eu des réponses ce matin. Stéphane Dubreuil, vous nous dites que ça ne change rien pendant cette période-là, parce que ça va être le gel. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'à l'issue de cette période de négociation, c'est-à-dire, comme vous nous le dites, d'ici en gros un an, peut-être un an et demi, est-ce qu'à ce moment-là, les forfaits vont grimper ?
Alors, si on fait un comparable par rapport à ce qui s'est fait avant sur l'Europe, on a remarqué effectivement une montée des prix rapide ou lente. Rapide, je vais donner cet exemple, c'est celui qui fait le plus peur. C'est celui de l'Autriche dans les années 2014-2015. Les prix ont flambé de 18,7% l'année du rachat. Fort de constater cela, la Commission européenne a mis dans leur rachat en Allemagne, la consolidation, des garanties pour éviter ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on peut, le gendarme de la concurrence a la possibilité de mettre des garde-fous pour éviter en fait une flambée. Donc a priori, pour moi, il n'y aura pas de flambée sur le moyen terme, la première, deuxième année. Par contre, à terme, il est évident qu'il y aura une montée qui
mais
peut aller de 10...
Mais pas uniquement sur les forfaits SFR. Sur les forfaits de l'ensemble.
Bah, SFR n'existera plus, donc sur l'ensemble en fait.
Sur l'ensemble, vous dites de combien, de quel ordre ?
Bah, on peut s'attendre 5 à 10 si on est optimiste, et si on est dans un scénario un peu catastrophe, c'est 15 à 20% ce qu'on a vu dans les autres pays comme l'Allemagne, l'Irlande et l'Autriche.
Reste la question aussi de l'emploi. Benjamin, je crois, s'en inquiétait. Bonjour Benjamin, vous nous avez appelé au 3216, vous êtes vous-même client à SFR, vous vivez à Bruay-la-Bussière, dans le Pas-de-Calais, dites-nous.
Ben voilà, bonjour à Pauline. Tout d'abord, je tenais à remercier SFR parce que ça fait plus de 20 ans qui m'accompagne.
Oui.
Et moi, ce que je dis à ce monsieur, parce que là, je suis en train de vous regarder en direct, c'est que en fait, il faut arrêter de prendre les clients pour des lapins de 3 semaines. Parce qu'en fait, les 20 milliards d'euros qui vont être dépensés pour le rachat de SFR, là, va bien falloir le récupérer tôt ou tard. Donc, ils vont pas donner 20 milliards d'euros comme ça. Et jamais récupérer l'argent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pour les emplois, parce que ce monsieur en a très bien parlé lors de votre émission. Moi, je pense aux emplois directs, parce que moi, étant client, j'ai toujours affaire à des dames charmantes ou à des messieurs charmants au téléphone. Quand j'ai un souci avec mon matériel et tout ça, je me rends en boutique SFR avec des personnes super influentes et toujours dans la bienveillance et tout ça. Ainsi que tous les emplois indirects, comme ceux qui viennent vous installer la fibre chez vous. Je vais employer une société qu'on connaît très bien qui s'appelle ERT Technologies,
ouais,
qui viennent chez vous vous câbler tout ça. Ben moi, je pense à tous ces emplois-là.
Vous avez bien raison. C'est une des questions importantes, à la fois les emplois directs et les emplois indirects, Benjamin. Officiellement, il reste 8000 salariés d'SFR. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, Stéphane Dubreuil, pour reprendre la question de Benjamin ?
Alors Benjamin a tout à fait raison, c'est-à-dire que le staff, en fait, les équipes à la fois techniques, commerciales, marketing, RH et comptabilité vont être réparties sur les trois opérateurs. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment va se passer la répartition. Effectivement, quand c'est un service qui bascule directement, c'est-à-dire une fonction qui est facilement identifiable, on va dire c'est assez facile. Quand vous êtes sur une fonction transversale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on ne sait pas exactement comment on va se faire.
Officiellement, aujourd'hui, il leur est réservé quel sort ?
Aujourd'hui, ils ne savent pas, et je pense que même les opérateurs qui rachètent ne savent pas dans le détail aujourd'hui quelle personne ils récupèrent. Faut être assez clair. Aujourd'hui, on est sur une analyse très macroscopique. On n'est pas à dire tel individu va là ou là. Donc, je peux comprendre déjà, un, l'inquiétude, ça c'est clair. Et deux, pour répondre à la question, il est évident qu'il va y avoir ce qu'on appelle dans le jargon une optimisation. C'est-à-dire qu'on risque forcément de passer de 8000 à 4000, voire peut-être 2000. Le vrai point, moi, c'est ce qui m'a toujours vraiment étonné, c'est que quand SFR a été racheté en 2014-2015, il y avait 15 000 personnes. À la fin, SFR va disparaître à horizon 2030, c'est une réalité.
Merci beaucoup Stéphane Dubreuil, économiste et spécialiste des télécoms. Merci aussi à Benjamin qui nous appelait de Bruay-la-Bussière dans le Pas-de-Calais. Benjamin, soyez le bienvenu, je crois que c'est la première fois que vous passez la porte du 32-16. Hein.
Oui. Puis ça fait des années que je vous regarde, Apolline, et ça fait des années que il y a des sujets que vous avez arborés qui me dressaient les poils et que je souhaitais.
Revenez quand vous voulez.
C'est parce que je voudrais intervenir une dernière fois. C'est le monsieur qui parlait des prix. On disait la même chose pour les 2 euros du litre. On parlait pour la même chose pour les 2 euros du litre. Et en fin de compte, nous y sommes arrivés aux 2 euros au litre.
Ce serait impossible. Et en effet, on y est. Merci beaucoup. Benjamin, il est 7h20 sur RMC. On va remonter le temps dans un instant avec Thierry Lenz ce matin. Bonjour Thierry.
Bonjour.
On connaît l'île de Sainte-Hélène, là où Napoléon a fini sa vie en exil, mais on sait moins que l'île a aussi joué un rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez nous le raconter?
Eh oui, Apolline, en juin 1940, les domaines français de Sainte-Hélène ont annoncé leur ralliement à la France libre du général de Gaulle.
Vous nous le dites dans un instant. Notez aussi que pour la suite du programme, le face-à-face à 8h30, mon invité, ce sera Manuel Bompard, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Arnaud Demanche arrive pour le pirater dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et c'est l'heure de remonter le temps, comme chaque jour sur RMC. Ce matin, c'est avec Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. Et donc, vous avez bien choisi votre sujet ce matin. Parce que Thierry, vous avez vu ce week-end le film d'Antonin Baudry, La bataille de Gaulle, qui vient de sortir au cinéma. Il raconte les débuts de la France libre, le mouvement créé par le général de Gaulle en 1940. Votre regard d'historien d'abord sur le film?
Écoutez, le film m'a beaucoup plu. C'est un film de cinéma, donc il simplifie beaucoup les choses. Mais en tout cas, il va montrer au public pas toujours très informé, à quel point la France libre, c'est une épopée avec des personnages extraordinaires.
Et on a hâte aussi de connaître la suite, parce que c'est en deux volets. La deuxième, c'est le 3 juillet prochain, il faut aller voir le premier avant. Le film, il met en avant un aspect assez essentiel pour De Gaulle, le ralliement des colonies françaises à la France libre.
Oui, à l'époque, le soleil ne se couche jamais sur les possessions françaises, que ce soit en Afrique, en Asie, aux Antilles. Et posséder cet empire, c'était pour De Gaulle montrer aux Anglais, qui doutaient quand même de lui, qu'il avait derrière lui des territoires, des populations et des moyens. Et la France libre a obtenu progressivement le ralliement de ces territoires avec beaucoup de culot grâce à la trempe des hommes qui entouraient le général de Gaulle. Ceci étant, j'ai un petit regret, tout petit, en ayant vu ce film.
Pourquoi? Il y a quelque chose qui me dit que ça doit avoir un lien avec Napoléon.
Et oui, savez-vous, Apolline, quel est le premier territoire français qui s'est rallié à la France libre? Eh bien, ce sont les domaines français de Sainte-Hélène.
Alors, qu'est-ce que c'était les domaines français de Sainte-Hélène? Alors,
les domaines français de Sainte-Hélène, c'est toujours aujourd'hui 3 petits terrains enclavés dans l'île britannique de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud. C'est là où Napoléon a vécu 5 ans d'exil et où il est mort en 1821. En tout, ça représente à peu près 10 hectares, achetés par la France en 1858 et qui étaient gérés en 1940 par un dénommé Georges Collin, ancien adjudant du génie et qui était donc le conservateur des lieux.
Et c'est cet homme-là qui a décidé de rallier la France libre?
Oui, dès le 23 juin 1940, c'est-à-dire 5 jours après l'appel du général, Collin envoie un télégramme à De Gaulle à Londres dans lequel il écrit « Un souffle de Sainte-Hélène ». Outré par la capitulation sans condition, suis à votre disposition. Et donc, avant même que Churchill ne reconnaisse la France libre, il met ce territoire à la disposition de l'administration du général de Gaulle. Et il faudra attendre le 18 juillet 1940 pour enregistrer un autre ralliement, qui est d'ailleurs montré dans le film, celui des Nouvelles-Hébrides, un petit archipel de l'océan Indien, avant, à la fin du mois d'août, les grands territoires africains.
Quels sont les moyens que Georges Collin met à la disposition de De Gaulle?
Alors là, il faut dire quand même presque rien. Effectif, 5 personnes, lui, son épouse, 2 gardiens, un jardinier. Les moyens militaires, c'est quelques vieux sabres qui sont entreposés dans le musée. Et les moyens financiers, 0. Mais quel symbole! La mémoire de Napoléon, d'ailleurs que De Gaulle ne vénérait pas autant qu'on pourrait le croire, la mémoire de Napoléon se met donc au service d'une cause qui est pour le moment sans véritable armée, sans véritable moyen, et c'est même d'ailleurs la France libre qui finira par venir au secours des domaines de Sainte-Hélène avec la prise en charge financière du poste en 1942. Georges Collin, lui, va rester sur place jusqu'en 1945, Il est mort en 1962 et son souvenir est perpétué sur place par le conservateur actuel. Et désormais, il n'est plus un inconnu pour les auditeurs d'Apolline Matin.
Et j'en suis très heureuse. Merci à vous de lui avoir rendu aussi cet hommage. La première terre, le premier territoire qui officiellement pouvait effectivement se revendiquer de la France libre. Merci Thierry Lenz, le premier volet donc de la bataille de Gaulle. C'est d'hier au cinéma depuis mercredi dernier. Et votre chronique, elle est à retrouver comme toutes les autres sur le podcast d'RMC 7h26, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Et bonjour Arnaud.
Bonjour.
Avec tout à l'heure sur RMC et BFM TV, mon invité, ce sera le coordinateur national, c'est comme ça qu'on dit, de la France Insoumise, Manuel Bompard.
Oui, sinon on peut dire grand stratégaire. Ça claque aussi, grand stratégaire des Insoumis, car hier, Jean-Luc Mélenchon est rentré en campagne à Saint-Denis avec un grand meeting devant la basilique et nécropole des rois de France. C'est-à-dire Mélenchon, il veut rassembler large. De la gauche radicale jusqu'aux Capétiens. C'est Thierry Lenz qui va être content. Alors Sébastien Delogu était super déçu parce qu'il pensait que la basilique c'était un resto italien, c'était quand même mieux, parce que c'est ce qu'on met avec les tomates à la basilique. Jean-Luc Mélenchon est très en avance sur ses concurrents à gauche. Il a même pas fait de primaire dans son parti, parce que Mélenchon il aime tellement la démocratie. Faut pas l'abîmer en s'en servant trop, vous voyez. Par contre, le reste de la gauche, il est tellement divisé, il pourrait organiser une primaire avec un seul candidat et finir avec trois vainqueurs dans son âge. Alors, chez les Insoumis, Mathilde Panot a appelé à la démission de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Ce dernier a déploré les dysfonctionnements dans l'affaire Liana. Ça, on l'a entendu tout le week-end. Justice, que du dysfonctionnement, madame de Malherbe. C'est la carte joker. C'est « Oups !» Ça a déconné.
Ça a dysfonctionné.
C'est un peu comme quand nous, on a besoin d'un papier important, on va à la mairie et on l'a pas parce que l'ordinateur, il veut pas. C'est l'informatique. Josiane! Le logiciel veut pas! D'ailleurs, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Édouard Philippe ou Gérald Darmanin ont dénoncé plus ou moins fermement, la médiocrité de l'action du gouvernement depuis des années sur la justice et la police. En gros, Retailleau, Attal, Philippe et Darmanin dénoncent la médiocrité de l'action de Retailleau, Attal, Philippe et Darmanin. Merde, ils sont dedans, ils sont dans la liste. Alors on connaît la suite, le gouvernement a annoncé une enquête administrative. Et ben si ces enquêteurs-là sont aussi bons que les enquêteurs sur lesquels ils enquêtent, le résultat va être funky. Je lisais au sujet de Jérôme Barella, une plainte a été déposée en août 2025 et en juin 2026, le gars avait même pas été auditionné. J'ai même lu que la mère avait tenté d'appeler la police elle-même. Les policiers m'ont clairement dit que je les saoule et si j'arrête pas d'appeler, ils déposeraient une main courante pour harcèlement. Voilà où on en est. Quand tu te sens assez en confiance pour dire ça à la mère, c'est que t'es pas dans un système qui dysfonctionne. C'est un peu facile de jouer « Josiane, la justice, elle est toute cassée. T'as du scotch. Essaye avec un trombone. Mets un trombone dans Darmanin. Pousse. Ça marche ? Non, c'est cassé. » C'est vraiment bien ce moment de détente à 7h20 avec les vannes sur des sujets feel good. On devrait faire ça plus souvent.
Bah,
à
oui, alors.
La prochaine fois, j'amène des bières et du pâté.
Avec
un petit accordéon. En attendant, rendez-vous.
C'était Arnaud Demanche qu'on retrouve à 8h15 tout à l'heure. Vous êtes bien sur RMC. Il est 7h29. À tout de suite, la météo et le journal. 7h31, le retour de la pluie, Géraldine.
Et par la Bretagne ce matin, qui va toucher tout le nord-ouest dans le courant de la journée, des Pays de la Loire, à l'Île-de-France, aux côtes de la Manche. De gros orages aussi attendus entre les Pyrénées, le Massif central et le Grand Est. Parfois de la grêle, en revanche, ce sera du soleil, des Alpes à la Méditerranée. Et des températures très contrastées en attendant le retour des grosses chaleurs ce week-end. Il faudra se contenter de 16 degrés à Brest cet après-midi, 22 à Paris, à Bordeaux. Il fera 28 à Marseille, 30 à Lyon, 31 même à Grenoble.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal.
Bonjour à toutes et à tous. Les procureurs généraux convoqués ce matin par Gérald Darmanin dans le sillage de l'affaire Liana et de ses dysfonctionnements en chaîne. Le principal suspect était visé par 9 procédures pour viol et agression sexuelle. Échange de frappes entre l'Iran et Israël ce matin. C'est dans ce contexte de reprise des hostilités que l'équipe iranienne de football est arrivée au Mexique pour le Mondial. Nous serons en direct de Tijuana dans un instant. Enfin, la 125e édition de Roland-Garros remportée par Alexander Zverev, l'Allemand qui obtient sa revanche en remportant son premier grand chelem.
Merci Grégoire Moigny. On commence tout de suite votre journal avec ces plaintes, plusieurs plaintes qui avaient déjà été déposées contre le principal suspect dans l'affaire Liana.
Et parmi elles, celle qui vient d'être déposée par ce père de famille. Vendredi, pas de réponse du parquet à ce stade, mais il raconte que sa fille aurait été agressée sexuellement par Jérôme Barella en novembre dernier, Marion Gauthier.
Sa fille connaissait Liana et a parlé lors d'une cellule psychologique ouverte la semaine dernière. Sa fille était aussi une amie des enfants de Jérôme Barella. Elle aussi a été invitée à une soirée pyjama.
Donc cette soirée-là, elle a subi des attouchements par M. Barella. Il a touché les seins, il a touché la plaque contre mur.
Patrice parle d'un protocole d'agression.
C'est malheureux, ça ne devrait pas exister des gens comme ça sur Terre. S'il n'y a pas de mots, c'est un enfant, on ne doit jamais toucher un enfant. Pour moi, c'est inadmissible. Il n'y a pas de mots, honnêtement.
Et même si Jérôme Barella reste présumé innocent, Patrice rappelle les plaintes déposées contre lui. Il dit sa colère, il ne comprend pas que ce suspect n'ait jamais été entendu avant la disparition de Liana.
Ça aurait peut-être pas passé s'il n'y aurait pas eu cette erreur de la justice. Et je pense que ça aurait pu se passer aussi à ma fille, à moi, parce qu'il a proposé à plusieurs reprises de la ramener en voiture, ça, et on avait toujours dit à ma fille de jamais monter avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et...
impossible de savoir si sa fille a tout dit, si elle a subi plus que des attouchements, soupire Patrice. Elle se renferme, dit-il, elle est accablée.
Et après la marche blanche organisée hier en hommage à Liana à Florence dans le Gers, des mobilisations prévues aujourd'hui devant de nombreux tribunaux en France. À l'appel d'Andrea Bescon, elle-même victime de viol en 1987 lorsqu'elle avait 6 ans, la réalisatrice et autrice invitée de RMC ce matin veut dénoncer l'injustice de trop.
Il est important de se réunir, il est important en tout cas que le gouvernement et les gens qui nous gouvernent constatent qu'aujourd'hui on ne peut plus tolérer ces injustices. On a toujours eu beaucoup, beaucoup de mal à fédérer autour des violences faites aux enfants. C'est David contre Goliath. On a le gouvernement qui dit, nous on a tout fait, on a mis les budgets, alors ce n'est pas vrai, ou alors on vit dans une dimension parallèle. Mais quand Monsieur Darmanin dit aujourd'hui, je vais réunir tout le monde et personne ira en vacances avant que nous ayons traité chaque dossier, je tombe de ma chaise en fait. C'est quelque chose qu'ils savent depuis toujours.
Et je vous le disais, dans le sillage de l'affaire Liana, le ministre de la Justice convoque ce matin les 36 procureurs généraux que compte le pays. Gérald Darmanin qui veut faire le point sur les 70 000 plaintes concernant des viols ou attouchements sexuels sur les enfants d'ici le 14 juillet. Cette revue des plaintes, on y reviendra à 7h40 avec Frédéric Chevalier, procureur de la République de Chartres et président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Des explosions entendues à Jérusalem ce matin, cela fait suite à des bombardements iraniens sur Israël. Plus tôt dans la matinée, c'est l'État hébreu qui a annoncé avoir visé des installations militaires de la République islamique. Ces échanges de frappes sont une première depuis le cessez-le-feu du 8 avril dernier. C'est dans ce contexte que doit s'ouvrir le mondial de football jeudi. L'équipe iranienne a atterri hier au Mexique. La sélection a établi son camp de base à Tijuana où l'on retrouve en direct Nicolas Pelletier. Nicolas, vous êtes l'un des nombreux envoyés spéciaux de RMC pour suivre ce mondial et dans ce camp de base de l'équipe d'Iran. Ce camp de base de l'équipe d'Iran, il a pris des allures de camp retranché.
Oui, seulement quelques salutations des joueurs iraniens à la fenêtre de leur chambre d'hôtel pour le public qui passe à l'extérieur devant l'entrée de la résidence. Pas moins de 300 militaires de la garde nationale mexicaine, cagoulés et armés jusqu'aux dents, escortent en permanence les moindres déplacements des membres de la délégation iranienne. Sûrement l'endroit le plus sécurisé de la Coupe du Monde, sourit un policier mexicain posté à l'hôtel dans le centre de Tijuana, à seulement quelques mètres de la frontière avec les États-Unis. Des Iraniens qui logent au Mexique mais qui joueront leurs 3 matchs du mondial de l'autre côté de la frontière. Le premier programmé à Los Angeles à 2 heures de route. Concernant l'accueil de l'équipe sur le sol américain, la question des visas n'est pas complètement réglée. Tous les joueurs l'ont obtenu, mais pas tous les membres du staff. Globalement, tout est flou. Sur la question centrale des visas, la FIFA cherche encore des réponses auprès de l'administration américaine.
Nicolas Pelletier en direct de Tijuana au Mexique pour RMC. Une vidéo fait polémique depuis samedi. Elle montre des enfants en tenue militaire arborant des pistolets à eau lors d'un spectacle de fin d'année dans une école de maternelle à Montreuil en région parisienne. Publiée sur les réseaux sociaux, cette vidéo provoque de vives réactions jusqu'à celle du ministre de l'Éducation nationale qui dénonce des images choquantes, Léonie Guilbeault.
T-shirt à imprimé camouflage militaire, lunettes de soleil sur le nez et pistolet à eau multicolore à la main. Sur les images, 7 enfants dansent sur le très populaire titre chargé. La vidéo est captée depuis le public où les parents applaudissent. Certains chantent même les paroles « Sortez les armes chargées ». Des images choquantes selon le ministre de l'Éducation nationale. D'après nos informations, cette scène se serait bien déroulée durant un spectacle de fin d'année en maternelle avec pour thème les pacifismes au XXe siècle. Les enfants auraient ensuite retiré les tenues militaires pour dévoiler des t-shirts blancs avec le symbole Peace and Love, ce qui n'est pas montré dans l'extrait. Le ministre, qui n'exclut pas des sanctions, indique avoir demandé au recteur de l'Académie de Créteil de faire toute la lumière sur les faits.
Premier titre en grand chelem pour Alexander Zverev. Il a remporté hier la finale de Roland-Garros face à l'Italien Flavio Cobolli. L'Allemand de 29 ans qui n'a pu retenir ses larmes après la balle de match.
Toutes les émotions jaillissent. Ce cours est très spécial pour moi car j'y ai vécu l'un des moments les plus difficiles de ma carrière. Il y a 4 ans, j'étais allongé au même endroit. Je m'étais blessé en ne sachant pas si j'allais m'en remettre un jour. Tous ces souvenirs pour moi ne sont pas effacés. Ils seront toujours là, mais cette victoire les surpassera tous. This one will beat
all of them. Enfin, ce soir, les Bleus disputent leur dernier match avant de s'envoler pour la Coupe du Monde. Coup d'envoi à 21h10 à Lille face à l'Irlande du Nord. À suivre, bien sûr, sur RMC. RMC, où vous pourrez vivre tous les matchs du Mondial 2026 dès l'ouverture de la compétition jeudi soir.
Et puis le quintet, ce sera sur l'Hippodrome d'Angers.
Début de la course à 18h30. Voici le pronostic de RMC. Le favori est le 2, Zulu Warrior. L'outsider est le 9, King Trezy. Le 2, le 9.
Merci pour ce journal. C'était le journal de Grégoire Morelli. Il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux pour qu'on fasse le bilan de sa cour d'appel, qu'on voit ce qui manque, s'il y a des difficultés ici ou là, peut-être des problèmes avec le ministère de l'Intérieur, peut-être des problèmes d'experts parce qu'il manque des psys ou des médecins légistes. Il peut y avoir ce genre de problème.
Les procureurs pointés du doigt, coup de semonce hier du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui convoque donc ce matin les procureurs généraux. Qui est responsable? Qui prendra d'ailleurs ses responsabilités? Bonjour Frédéric Chevalier, vous êtes procureur vous-même, vous êtes procureur de Chartres et vous représentez les procureurs partout en France. Votre ministre de la Justice qui exige donc que l'ensemble des 70 000 peines impliquant des mineurs soient passées en revue, est-ce que vous redoutez d'être les boucs émissaires dans ce fiasco de l'affaire Liana? Je vous pose évidemment la question dans un instant. Et vous qui nous appelez au 3216, n'hésitez pas, appelez-nous.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h43 sur RMC et sur RMC Story. Après la mort de la petite Liana, les procureurs généraux sont convoqués dans moins d'une heure par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui exige que l'ensemble des plaintes impliquant des mineurs soient examinées d'ici la mi-juillet. Personne ne partira en vacances tant que les 70 000 plaintes ne seront pas parlées au crible, passées au crible. Voilà ce qu'il dit. Bonjour Frédéric Chevalier. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes procureur vous-même à Chartres et vous présidez la conférence nationale de tous les procureurs de la République. Comment vous vivez ce moment où Gérald Darmanin a tapé du poing sur la table en quelque sorte en disant « vous ne partirez pas, vous, Frédéric Chevalier, vous, tous les procureurs, en vacances, tant que tout n'aura pas été passé au crible ». Comment vous le prenez d'ailleurs? Est-ce que vous prévoyez du coup de partir en vacances?
Bonjour madame, merci de m'inviter au nom de la conférence nationale des procureurs de la République. Il y a beaucoup d'émotions dans cette affaire. Et cette émotion, l'ensemble des procureurs, des magistrats des parquets, des magistrats en général, la partagent. Après, il y a la colère, j'ai entendu. Vous savez, quand on est en responsabilité, la colère, elle est souvent très mauvaise conseillère. Quand on est en responsabilité, il faut pouvoir garder la tête froide. Et aujourd'hui, je trouve que ça dérive. Et que jeter en pâture des magistrats du parquet dont... Le but, la mission, la conviction, c'est que tous les matins on se lève, madame, pour faire en sorte que ces drames n'existent jamais. C'est vrai que la colère, moi je la partage pas, et je veux, comme tout le monde, comme les Français, comprendre, savoir ce qui s'est passé. Moi j'en sais rien. Vous savez, il y a un article 11 du Code de procédure pénale qui dit que l'enquête et l'information judiciaire, elle est secrète. Bon, apparemment, il y a plein de monde qui savent beaucoup de choses sur tout. Moi j'en sais rien, madame. Je sais ce que vous en dites. Et pour l'instant, j'ai trouvé très bien que notre ministre diligente une inspection, comme le ministre de l'Intérieur, parce que l'inspection, elle va répondre à ces questions.
Ça, c'était la première étape. Première étape, c'était une inspection générale, administrative. Et puis, hier, cet appel plus, j'allais dire presque plus menaçant, nous ne partirons pas en vacances tant que les 70 000 plaintes. Sous-entendu, il y a dans vos tiroirs, il y a sur vos bureaux, des plaintes en souffrance, qui ne sont pas examinées et qui laissent des enfants sans protection.
Il n'y en a pas 70 000, il y en a 3 400 000, tout contentieux confondu. On le sait depuis des années, c'est renseigné. Tout le monde connaît l'état dans lequel les services enquêteurs, notamment, hein, parce que les 70 000 procédures, on va les trouver où, madame?
On va les chercher dans les brigades. Les 70 000, ce sont celles qui concernent, dit-il, les mineurs.
Les mineurs, très bien. Je dis simplement qu'il y a d'autres personnes victimes aussi, moins gravement sans doute, mais enfin, il y en a au total 3,4 millions. On va les chercher où? On va aller chez les camarades policiers et gendarmes et on va regarder. Mais enfin, c'est ce qu'on fait déjà tous les jours. Moi, mon parquet, par exemple, mes collègues vont plusieurs fois par semaine dans les services de police, de gendarmerie, pour faire l'état des stocks, pour donner des réponses pénales, pour faire avancer les procédures. Bon, alors, on va le faire, ce recensement. Pas de difficulté, on ira de nouveau chez les policiers et les gendarmes pour le faire. Et après? Et après, ben, il va falloir les traiter, ce qu'on fait de manière nécessaire, quotidienne. On va les traiter. Évidemment, si on traite prioritairement, on va mettre de côté un petit peu d'autres sujets. On est prêt à le faire.
Vous voulez dire qu'ils sont tous prioritaires?
Ben, la priorité, Gérald Darmanin, il a été clair quand il est arrivé. C'est le narcotrafic, les atteintes aux personnes. Parmi les atteintes aux personnes, on a 5 catégories, dont les mineurs. Ça fait, mais on n'a pas attendu Gérald Darmanin. Hein. Monsieur Dupond-Moretti nous avait dit en mars 2023 sur 14 pages, consacrez-vous à cette lutte. Enfin,
pardon, je vais vous arrêter un instant, Frédéric Chevalier. Vous dites, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça vous ennuie, visiblement, qu'effectivement, un certain nombre d'éléments soient sortis par voie de presse la plupart du temps, alors que, dites-vous, l'enquête, elle est secrète. Moi, je veux bien, mais il y a quand même un moment où c'est un peu facile de dire, il y a le secret. Il y a une plainte, n'en prenons qu'une, qui a été déposée le 22 août dernier. C'est une petite fille de 9 ans, puis de 10 ans, puis de 11 ans, qui dit des viols répétés. Elle dépose cette plainte avec sa maman le 22 août. Le 11 septembre, le rapport médical conclut à des lésions qui corroborent son récit de viol. Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus? Là, vous l'avez l'élément, et j'imagine que cet élément, il a été connu de quelqu'un. La maman elle-même, plusieurs fois dans les semaines et dans les mois qui ont suivi, n'ayant elle-même pas le compte-rendu de cette enquête médicale, appelle et dit, on en est où? Et on finit par lui dire, écoutez, ça finit par être du harcèlement, vous nous saoulez, madame. Pardon, comment c'est explicable?
Madame, je dis pas qu'il s'est rien passé, je dis simplement, est-ce qu'on peut prendre le temps de la compréhension de tout ça?
Vous me donnez. Mais on l'a pris suffisamment?
Non, madame,
pardon, neuf mois non, avec une plainte dans un tiroir, vous trouvez qu'on peut prendre encore plus de temps?
Non, mais attendez, n'importe quel criminel, quand il est accusé, il a le droit à avoir une enquête sérieuse et à avoir les moyens.
Mais quand il y a un fait comme celui-là, jusqu'à quand vous continuez? Vous estimez que l'enquête n'est pas finie? On peut toujours se dire, bah oui, il faut d'autres éléments, mais qu'est-ce qui empêche de continuer l'enquête tout en allant chez le prévenu, frapper à la porte? Il y a une petite fille de 10 ans qui a été violée.
Madame, je vois que vous, comme les autres, vous avez plein
Pardon,
de...
Pardon, oui, vous de, allez me reprocher non, madame, d'être dans la colère et l'émotion.
Vous avez plein de compétences en matière de procédure pénale. Tant mieux.
Non, j'en ai aucune, je vous pose la question.
Bon, je dis simplement, sur cette affaire-là, je peux pas vous répondre, je n'ai pas les éléments.
Bah, je les ai, je viens de vous les donner.
Sauf que, non, mais madame, vous vous arrêtez au 22 septembre, au 11 octobre, au 9 février, j'en sais rien.
Non, je vous dis simplement... Le 11 septembre, il y a cet élément médical. Est-ce que cet élément médical doit rester dans le fond d'un tiroir en disant, on n'a pas encore d'autres preuves?
Je trouve que les collègues de Toulouse ont parfaitement fait le travail, manifestement, à ce que vous me dites. Bah oui, les éléments médicaux, ils les ont collectés.
Oui.
Normalement, vous savez, les collègues, ils auraient rien dû faire. Ils auraient dû simplement dire, on n'est pas compétent. À Toulouse, il n'y avait aucun critère de compétence. Ils auraient dû directement donner la plainte sur le lieu où les enquêteurs auraient dû enquêter, c'est-à-dire Hoche. Bon, ils ne l'ont pas fait par souci de préservation des investigations urgentes. Bon, ça, on peut le dire aussi. Après la suite, j'en sais rien, madame. Et c'est pour ça, et le garde des Sceaux n'en sait pas plus. Simplement, il dit, pour comprendre, pour savoir, je fais une inspection. Pourquoi, madame, pourquoi ne pas laisser le temps de 15 jours? On n'a pas 15 jours devant nous, par respect pour cet enfant, pour savoir ce qui s'est passé. Et une fois que l'inspection nous aura dit, voilà ce qui s'est passé, voilà qui a fait quoi. Et de ça, nous...
Les juges doivent-ils rendre des comptes? Bien. Les juges doivent-ils rendre des comptes?
Évidemment.
Est-ce que vous estimez qu'il doit y avoir des sanctions?
Non, j'estime qu'il faut
d'abord... C'est quoi rendre des comptes s'il n'y a pas de sanctions?
Mais madame, à quoi ça sert de faire une inspection?
Bon, alors, je ne vous dis pas une sanction aujourd'hui, je vous dis une sanction à la fin de l'inspection. Mais est-ce qu'il faudra des sanctions? Est-ce que les uns et les autres pourront...
Les magistrats ne sont à l'abri de rien. Voilà, il y a un conseil supérieur à la magistrature dont c'est un des objectifs, c'est ça, c'est de faire la discipline des magistrats. Bon, donc, ce conseil... Le garde des Sceaux, tout le monde agira une fois qu'on saura, dans maintenant moins de 10 jours, ce qui s'est passé. C'est quand même pas compliqué à comprendre.
Vous rencontrez d'ailleurs, je crois, le ministre demain. Qu'est-ce que vous allez lui dire?
On va lui dire ce que je vous dis. On va lui dire que On apprécie son engagement depuis un an et demi qu'il est à la tête de ce ministère. C'est incontestable. On apprécie les moyens qui nous ont été donnés. C'est incontestable. On apprécie le fait que on est sorti de cette clochardisation dont le garde des Sceaux Urvoas parlait pour aller vers des budgets qui deviennent corrects. C'est une trajectoire, il va falloir l'amplifier manifestement. On est là pour travailler tous les matins, on se lève pour ça, madame. Et on dira au garde des Sceaux, réservez simplement votre prise de décision une fois que vous aurez les éléments pour ça et arrêtez de jeter en pâture notamment notre collègue de Hoche.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de venir. On le sent bien, vous estimez qu'il ne faut pas être en colère, mais vous-même vous êtes au bord de cela.
Non, je veux dire simplement les choses avec conviction, madame.
Et c'est entendu. Merci beaucoup, Frédéric Chevalier. Vous-même, donc, procureur à Chartres et président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Merci à vous. Il est 7h51 sur RMC et c'est notre voix de droite, Charles Consigny, qui vient d'entrer dans ce studio. Bonjour, Charles. Bonjour. Grand meeting de Jean-Luc Mélenchon hier à Saint-Denis, coup d'envoi de la campagne LFI, démonstration de force. Mais pour vous, Jean-Luc Mélenchon, c'est contre-productif, c'est-à-dire?
Je pense que son programme est contre-productif. Je pense qu'il est bloqué en 1980.
Vous nous le dites dans un instant, 7h52 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, dans un instant la voix de droite, mais d'abord le bonus, Mathieu.
Avec un spectacle musical sur France 98. Le 12 juillet 98, la France devenait championne du monde pour la première fois. Et 30 ans plus tard, cette soirée historique va devenir un spectacle. Enfin, pas que la soirée. 1998, notre plus belle histoire. Un spectacle musical qui racontera l'été des Bleus de la France à l'époque. Les émotions vécues par les Français. C'est le producteur qui est déjà à l'origine de la comédie musicale La Haine qui a fait cette annonce cette semaine de début de Coupe du Monde. La bande-son devrait faire revivre les succès de l'époque. Le producteur évoque NTM ou IAM sur scène, une vingtaine d'artistes, chanteurs, comédiens, danseurs, une mise en scène mêlant musique, vidéo et théâtre. C'était aussi l'époque de l'avènement de la French Touch. Et le calendrier est fixé, écriture du spectacle 2026, première chanson dévoilée 2027, lancement à partir de 2028 pour les 30 ans du premier sacre des Bleus.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Nouvelle France, le slogan hier crié par les participants, 26 000 d'après les organisateurs. Jean-Luc Mélenchon, son meeting hier à Saint-Denis, le leader insoumis qui a déroulé une partie de son programme, SMIC à 1 700 €, retour de la retraite à 60 ans, 6e République, indépendance de la Nouvelle-Calédonie et Nouvelle France. Donc pour vous, Charles Consigny, voix de droite ce matin, Jean-Luc Mélenchon et les insoumis sont contre-productifs pour la gauche, ça veut dire quoi?
Ah, pas pour la gauche, pour la France. Moi, je constate, comme tout le monde, que le camarade Mélenchon nous a offert hier un magnifique meeting. Et ça fait du bien de voir une foule comme ça engagée et animée par une certaine ferveur militante. Néanmoins, je regarde le fond et sur le fond, au fond, je suis même un peu déçu parce que je regarde les propositions qui sont extrêmement classique, pas original, et qui, à mon sens, sont extrêmement mauvaises pour le pays. Je pense notamment à la retraite à 60 ans. Il n'y a pas un économiste sérieux, pas un, qui défend l'idée de la retraite à 60 ans en France. Tout le monde dit que c'est une connerie sans nom et que ça n'est pas finançable, par exemple, mais ça n'est qu'un exemple.
Ça veut dire que vous êtes presque déçu que Mélenchon fasse de la gauche, quoi.
Non, je suis déçu qu'il manque de créativité, si vous voulez. Autant j'ai été surpris, enfin pas surpris d'ailleurs, mais il a réussi à attirer Annie Ernaux, qui à mes yeux est une très grande écrivain, dans ses filets, et à lui faire s'exprimer au pupitre. Alors je savais qu'elle était aussi mauvaise femme politique que bonne écrivain, donc je suis pas très très étonné. En revanche, j'attendais plus de créativité sur le plan des propositions. Et là, bon, on est
sur le SMIC à 1 700, sur la retraite à 60 ans, sur la 6e République. En effet, vous vous y attendiez. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'autonomie plus grande des différents territoires? Pour la Corse notamment, une autonomie étendue, et alors pour la Nouvelle-Calédonie, l'indépendance.
Carrément l'indépendance. Bah, je pense que c'est en réalité l'affaiblissement de notre pays. Et en fait, c'est très frappant de voir à quel point, à l'extrême gauche, on se fiche complètement d'avoir une France puissante, d'avoir une France qui compte dans le monde. Sachez par exemple que la France est le pays dans le monde, devant les États-Unis, qui dispose du plus grand domaine public maritime, des plus importantes eaux territoriales, notamment grâce à la Nouvelle-Calédonie, grâce à tout un tas de territoires qui font partie de notre puissance, qui font partie de notre capacité à nous déployer à l'international. Ça n'intéresse pas du tout Mélenchon, de même que plus d'autonomie pour la Corse, etc. Tout ça, c'est de la démagogie pour essayer de racoler quelques votes corse. Tout ça, à mon sens, va contre la puissance française et donc in fine contre les classes populaires, puisque si vous appauvrissez le pays, vous appauvrissez ces classes populaires.
Un mot aussi de ce slogan qu'on a entendu. Écoutez les cris de la foule. Ce que vous distinguez là dans la foule, c'est le cri « On est chez nous », un cri qu'on entend d'habitude du côté du RN, voire même du Front National d'avant, ce « On est chez nous », mais qui se veut évidemment à l'inverse, le côté « On est chez nous, Nouvelle France ». Comment vous réagissez à ça ?
Alors, je ne veux pas le diaboliser. Je suis sûr que beaucoup de gens se précipiteraient pour dire « Ah voilà, ça veut dire qu'ils font du séparatisme territorial, ça veut dire qu'ils sont dans je ne sais quelle conquête, etc. » Je pense qu'effectivement, c'est une espèce d'écho au slogan du Rassemblement National, qui en tout cas est scandé dans certains meetings du Rassemblement National. Moi, je pense, pour le coup, je vais vous dire, je vais reconnaître une chose à Mélenchon, même s'il le fait par le clientélisme le plus affreux et parfois par des allusions antisémites ou autres dont tout le monde a compris le sens et la portée. Je pense quand même qu'il fait l'effort de parler à toute la France, si vous voulez, à la plus large partie de la France possible. Et là-dessus, je lui reconnais ça et je pense que les autres partis devraient faire eux aussi l'effort.
Mais vous voyez que vous avez été surpris finalement alors.
Alors par cette... Ah. Non mais bien sûr, par la marée humaine, etc. Ça, tout le monde le voit. Mais je pense que sur ce plan-là, les autres partis pourraient faire aussi cet effort d'aller retrouver un peu le peuple dans toute sa diversité.
Charles Consigny, la voix de droite. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Dufaux. Et puis notez qu'à 8h30, ce sera Manuel Bompard, mon invité. 7h58, à tout de suite pour la météo de journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.